Il est 14h à Paris, 1h de moins en temps universel, 9h à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi, Clotilde Dumay.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain et cette inquiétude grandissante en Haïti face à la crainte de voir l'ensemble de la capitale Port-au-Prince tomber dans les mains des gangs armés dans l'indifférence internationale. On va revenir sur la situation dans un instant. Dans ce contexte sécuritaire de plus en plus difficile, les Haïtiens se raccrochent malgré tout à la culture. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince doit débuter demain. On écoutera Milena Sander, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Les réactions internationales au lendemain de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président russe n'a accepté qu'une trêve très limitée. Réaction notamment sur RFI de Stéphane Dion, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco.
C'est quand même assez inédit, je crois, qu'un cessez-le-feu porte sur quelque chose aussi pointu. Et là, on va cesser de bombarder les infrastructures énergétiques. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ce que nous souhaitions.
Stéphane Dion qui revient également sur le rapprochement du Canada avec l'Union européenne face à la présidence Trump. Interview à suivre. Et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Tessa Groman.
Bonjour Clotilde.
À la une, ces nouveaux équipements pour lutter contre le narcotrafic en Martinique.
Le ministre des Outre-mer a annoncé l'arrivée prochaine de 2 radars et 1 scanner pour renforcer les moyens de contrôle du trafic de cocaïne sur terre comme sur mer.
A tout à l'heure Tessa, mais d'abord l'actualité internationale.
RFI Midi.
Bonjour Paul Longsin-Spinelli.
Bonjour Clotilde Dumay, bonjour à tous.
Et ce nouveau bras de fer qui ne va pas arranger la relation entre la justice américaine et Donald Trump.
Le président américain veut contester la décision d'un juge fédéral qui souhaite freiner le démantèlement de l'USAID, cette agence américaine de développement international indépendante du gouvernement. Elle est devenue une cible récurrente du dirigeant républicain depuis son arrivée à la Maison-Blanche, mais aussi d'Elon Musk, le milliardaire qui est chargé de mener les immenses coupes budgétaires, sauf qu'un magistrat se met en travers de ce binôme, Ablajou Naidi. Hier, il a dénoncé une attaque contre la Constitution.
Et oui, le démantèlement d'une des principales agences humanitaires dans le monde, USAID, viole probablement la Constitution américaine. Tel est l'avis du juge fédéral saisi par des employés démis de leurs fonctions. Le magistrat ordonne que près de 25 000 personnes récemment embauchées soient réintégrées et l'accès au courriel restauré pour tous les employés de l'agence. Il interdit aussi d'engager tout autre travail lié à la fermeture du USAID. Pour la première fois, Elon Musk à la tête du DOGE, la commission responsable de la purge au sein de l'administration, est officiellement mise en cause. Le juge estime que le milliardaire est plus qu'un simple conseiller de Donald Trump et qu'il agit de facto comme un ministre, mais sans avoir passé le processus de nomination prévu par la Constitution, à savoir la confirmation par le Congrès. Alors, difficile de savoir si les décisions du juge seront immédiatement suivies des faits. Donald Trump, sur Fox News, en tout cas, a annoncé qu'il fera appel de ce jugement.
Merci Ablajou Naidi, service international d'RFI. Après Vladimir Poutine hier, Donald Trump va redécrocher son téléphone aujourd'hui pour appeler cette fois Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a averti ce matin. Selon lui, il ne faut faire aucune concession à la Russie en matière d'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, le président russe avait prévenu Donald Trump hier, il n'acceptera un cessez-le-feu complet si et seulement si les alliés de Kiev cessaient leur soutien armé. Pour le moment, le Kremlin a seulement accepté une trêve limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Pour les Européens, Julien Chavannes, ce n'est absolument pas suffisant.
Pas d'accord sans les Ukrainiens. Emmanuel Macron et Olaf Scholz l'ont répété hier soir à Berlin. Le président français et le chancelier allemand sur la même ligne pour poursuivre l'aide militaire à l'armée ukrainienne alors que Vladimir Poutine réclame l'arrêt de l'aide occidentale. La priorité est bien de livrer toujours plus d'armes à Kiev. Tobias Billström est le ministre des Affaires étrangères de la Suède.
Je voudrais souligner la nécessité de veiller à ce que les fournitures militaires puissent parvenir à l'Ukraine afin d'aider ce pays qui se bat actuellement pour notre liberté et notre sécurité.
Certains pays de l'UE veulent aller plus loin dans leur soutien à Kiev. La Suède, la Finlande, le Danemark, la Lituanie et l'Estonie demandent dans une lettre ouverte à la Commission d'avoir une vraie feuille de route pour l'adhésion de l'Ukraine. Et cela malgré l'opposition de la Hongrie et de la Slovaquie. À Londres, Keir Starmer a été plus bienveillant sur l'initiative de Donald Trump. Le Premier ministre britannique a salué les progrès réalisés par le président américain en vue d'un cessez-le-feu. Mais aujourd'hui encore, les Européens sont tenus à l'écart des négociations directes entre Washington et Moscou.
Julien Chavannes et de son côté, le Kremlin a accusé ce matin Kiev d'aller à l'encontre des efforts de la Russie et des États-Unis, mettant en cause une attaque nocturne contre un dépôt pétrolier. L'armée russe, elle aussi, a mené des frappes sur des bâtiments civils ukrainiens dans la nuit.
Les espoirs de maintien de la trêve s'envolent à Gaza.
970 personnes sont mortes en 48 heures dans la bande terrestre après deux nuits de reprise des frappes israéliennes. Un carnage, le bruit des bombes, une atmosphère qu'a déjà vécue pendant 15 mois Meïssara Moukaïmar. Avant la trêve signée donc en janvier entre le Hamas et Israël. Cet agronome de Gaza, il est diplômé d'une université française. Il rêve d'ailleurs de venir s'installer en France avec sa famille. Mais pour le moment, il essaye juste de survivre, comme il l'a confié à Amira Suilem.
Malgré les bombardements qu'il qualifie de cauchemar et malgré les ordres d'évacuation de l'armée israélienne, Meïssara Moukaïmar a décidé de rester à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avec sa famille. Pas question d'être déplacé une troisième fois, dit-il.
C'est très difficile de faire un déplacement une autre fois. L'expérience du déplacement, elle était très très mauvaise pour moi et pour tout le monde, surtout pour mes enfants. Aucune place à la bande de Gaza est sécurisée. Toutes les endroits sont vraiment sommés à des bombardements.
Ce père de quatre enfants ne voit plus qu'une issue, quitter Gaza. Agronome, diplômé de l'université Paris-Saclay, lui qui a été accepté dans un programme académique à Nantes, veut rejoindre la France avec sa famille cette fois-ci.
Je cherche l'avenir de mes enfants. J'ai une fille qui est normalement en troisième année maintenant de l'architecture. Cette année, c'est la deuxième année et elle ne peut pas aller à l'université parce qu'ils ont bombardés, ils ont détruit toutes les universités et les institutions académiques à Gaza.
La trêve a volé en éclats depuis 24 heures et pour Meïssara Moukaïmar et sa famille, c'est le rêve d'une nouvelle vie en France qui s'éloigne un peu plus. Amira Suilem, Ramallah. RFI.
Accusé par le Hamas d'avoir tué un travailleur étranger de l'ONU et blessé 5 autres personnes dans une frappe ce matin, l'armée israélienne dément avoir bombardé leur complexe des Nations Unies. Le complexe des Nations Unies.
Il est 14h07 à Paris. On termine ce journal, Paul, avec une figure de l'électro en France.
Oui, Étienne de Crécy qui revient avec un nouvel album. Il s'appelle Warm Up et c'est José Marinho qui vous le fait découvrir. Every night
to find a fight. Nouvelle aventure musicale pour Étienne de Crécy, DJ et producteur de musique électronique français de 56 ans. Warm Up, c'est un disque plutôt pop et surtout entièrement chanté. Étienne de Crécy a d'abord été membre du duo Motorbass formé avec Philippe Sdar. Puis en solo, il a fait danser toute la planète en 1997 avec son album survitaminé Super Discount. Pour son nouveau projet, il réunit un bataillon d'interprètes hétéroclites, les pop stars britanniques Alexis Taylor du groupe Hot Chip et Damon Albarn de Blur, mais aussi des rappeurs chanteurs talentueux, presque tous inconnus au bataillon, comme Sugar Pete ou ici Frank Leon sur ce morceau au groove irrésistible. Avec 11 titres, Étienne de Crécy réussit l'exploit de réaliser un disque cohérent et chaleureux malgré la diversité musicale de ses invités.
Oui. Le survitaminé Étienne de Crécy pour terminer ce journal. Je vous repasse la main, Clotilde Dumais.
Et Paul Lonsin-Spinelli pour ce journal.
RFI Midi. Cap-Haïtien, 100.5 FM.
À Port-au-Prince, ce n'est qu'une question d'heure, selon l'agence Alter Press, avant que les gangs armés ne s'emparent totalement de la ville. 85% de la capitale haïtienne est aux mains des gangs et seuls quelques quartiers sont encore épargnés. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
La presse parle d'une population laissée à l'abandon.
Oui, dans son article du Miami Herald, notre consoeur Jacqueline Charles a recueilli des témoignages qui sont édifiants pour décrire la situation sur place. Ces deux dernières semaines, la situation est devenue insupportable. insupportable dans la capitale haïtienne. Selon Pierre Espérance, un défenseur des droits humains, la ville peut tomber à tout moment, poursuit-il. La journaliste décrit une situation terrible, une ville en prise entre les hurlements et les tirs d'armes, les gangs armés et l'exode massif de la population, entre l'anxiété et le silence. Les quartiers sont vidés un par un, les maisons brûlées, les commerces pillés. 60 000 personnes ont fui en un mois, selon l'Organisation internationale pour la migration. Les habitants ne savent pas où aller, la population se sent abandonnée. C'est aussi ce que décrit Franz Duval dans Le Nouvelliste. Que faire quand on ne peut rien faire, se demande le rédacteur en chef du journal. Chaque Port-au-Princien, ceux qui vivent dans les derniers quartiers, non encore attaqués par les gangs, se posent cette question en échafaudant des plans, en se demandant combien de temps il leur reste avant de connaître le même sort que les autres. Ailleurs, pas un mot, pas un sitting, pas une manifestation, poursuit-il. Les figures de la diaspora haïtienne sont aux abonnés absents. Même chose pour l'opposition, silencieuse elle aussi, tout comme la communauté internationale. Aujourd'hui, même l'ingérence est en vacances, selon Franz Duval. Alors que faire? Eh bien rien et attendre. Ce n'est pas du défaitisme, mais une façon de cultiver l'espoir et l'espérance. Et
sur le terrain, un policier kényan, un membre de la mission multinationale de sécurité, a été blessé à Kenskoff lors d'un échange de tirs.
Oui, la situation sécuritaire dans ce quartier de la capitale demeure préoccupante, peut-on lire dans Gazette Haïti, et la population vit dans une tension constante. Le journal rappelle qu'il y a quelques semaines, un militaire haïtien avait déjà perdu la vie à Kenskoff et l'espoir d'un retour à l'ordre s'amenuise au sein de la population de jour en jour. Dans ce contexte, les autorités sont accusées de regarder ailleurs et l'agence de presse Alter Press se pose la question, où est le président du conseil présidentiel de transition? Celui-ci est accusé de laisser le chaos s'installer alors que Port-au-Prince agonise sous l'emprise des gangs, que Delmas 32 lutte pour sa survie et que les quartiers tombent comme des dominos, souligne l'éditorialiste Pierre Legros. Fritz Alphonse Jean, le président du CPT, préfère s'envoler en hélicoptère pour participer aux festivités de la Saint-Joseph à Fort-Liberté.
Alors justement, au milieu de ce chaos, la culture tente malgré tout de résister, notamment avec le Festival international de jazz de Port-au-Prince, le Pape Jazz qui doit faire son retour. La 18e édition doit normalement débuter demain jusqu'à samedi. Il était initialement prévu en janvier ce festival, mais il a déjà dû être reporté en raison du climat sécuritaire. Malgré les défis, la Fondation Haïti Jazz reste fidèle à son engagement, montrer une autre image d'Haïti, accompagner les artistes, faire rayonner la culture et prouver que même dans ces conditions actuelles, eh bien, la musique et l'art peuvent encore rassembler. Milena Sandler, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, s'est confiée au correspondant de RFI à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Cette année, le contexte est pire, je dirais, que l'année dernière. Et en fait, on a réduit, normalement le festival est sur 8 jours, et la dernière édition qu'on a pu faire dans son format normal, c'était en 2021. Cette année, nous sommes sur 3 jours et 2 jours de grande scène au Caribé Hotel, qui est un endroit sécurisé. On a la police nationale et la Politour qui, comme d'habitude, nous soutiennent. Malgré ce contexte d'insécurité, il nous semble important d'offrir un moment de convivialité et d'espoir à tout le monde, quoi, au public en général.
Comment cette édition du Pape Jazz se distingue-t-elle des précédentes, que ce soit en termes de programmation, de format ou d'innovation?
On est sur donc 3 jours. On a beaucoup d'ateliers qu'on espère pouvoir faire à l'Institut français pour certains, d'autres au Centre culturel Brésil-Haïti. Donc, on fait des ateliers comme toujours. Il faut savoir que cette année, ce n'est pas un festival international. C'est la première fois en 18 ans que nous avons un festival qui n'invite personne de l'étranger. C'est un festival où on va montrer que nous avons aussi beaucoup de talents locaux. Donc, c'est un festival avec des musiciens et des musiciennes qui viennent seulement de Port-au-Prince. On a 2 grandes scènes, ce qu'on appelle donc les grandes scènes, avec 3 concerts à chaque fois, chaque jour. Et puis, on a un kick-off cette année aussi. Donc, le jeudi 20, on fait une soirée un peu différente avec DJ, avec un artiste comme James Germain qui est de passage en Haïti. Donc, on en profite. En termes de programmation, on parle des artistes locaux, pas nécessairement de jazz, mais qui ont fait un travail justement pour apporter un peu de jazz. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette édition Pape Jazz It Up, L'idée, c'est d'insuffler une touche jazz à la musique locale. Une grande partie des artistes programmés s'est prêtée à cet exercice, à travailler un petit peu leur répertoire pour en faire quelque chose un peu jazzé. Nous avons également, en termes d'apport, cette année particulièrement, nous avons un mur de l'engagement, donc un commitment wall, des espaces où les musiciens, les festivaliers vont pouvoir inscrire leur engagement citoyen pour leur pays, pour leur ville, pour leur quartier. Ça sera retransmis, le festival, ces grandes scènes, en province, puisqu'on ne peut pas y aller, mais on sera donc à Jacmel, on sera au Cap-Haïtien également, on sera à Las Terrenas en République dominicaine, on sera également en Guadeloupe et certainement en Martinique, peut-être à Montréal.
Quelle est l'importance de maintenir un événement culturel comme le Pop Jazz dans un contexte aussi difficile et quel message souhaitez-vous envoyer à travers cette édition?
Le message qu'on veut envoyer, c'est qu'on est dans la résistance, on résiste. C'est important, c'est un engagement que nous, Fondation Haïti Jazz, avons pris il y a 18 ans de faire ce festival. Donc pour nous, c'est important de résister et de continuer à offrir un moment de convivialité à tout le monde, au public, à nos équipes, aux musiciens. C'est un moment de partage.
Non, rendez-vous, votre chanté,
Milena Sandler, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, qui était interrogée par Peterson Luxama.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Dans l'actualité aussi, ces centaines de manifestants au Venezuela pour demander la libération des 238 migrants envoyés, Anne, par le président américain Donald Trump dans une prison salvadorienne.
Oui, à l'Universal nous apprend que 91% des Vénézuéliens estiment que Donald Trump agit à l'encontre des droits humains. Et pour illustrer ce propos, dans le Boston Globe aujourd'hui, ce témoignage de la mère d'un jeune Vénézuélien, Joe, âgé de 17 ans, sans papier et arrêté alors qu'il se rendait à son travail sur un chantier dans la ville de Lewiston, dans le Maine. Elle a reçu un appel d'un agent de l'immigration, lui expliquant que son fils allait être expulsé au Salvador. Si vous voulez, vous pouvez vous aussi vous rendre, mais il sera expulsé de toute façon, lui a dit l'officier. Depuis son arrestation, sa famille n'ose plus sortir de chez elle, de peur, elle aussi, d'être arrêtée. Sa mère, dans un sanglot, explique que l'administration Trump veut détruire les familles de migrants. Les parents sont aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Les deux jeunes de la famille des citoyens américains, Joe, est en transit dans un centre de rétention pour mineurs à New York, à près de 500 km de sa famille. C'est effrayant, je n'ai jamais vu ça, témoigne son avocat.
Anne Verdaguer pour la revue de presse.
RFI Midi.
Ce n'est pas suffisant. Voilà ce que fait comprendre l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco. Après l'annonce par Washington et Moscou d'une trêve limitée de 30 jours sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Trêve annoncée après l'appel téléphonique hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sur RFI, Stéphane Dion réagit aux conclusions de cet échange. Il évoque également la relation compliquée entre le Canada et le président américain et le rapprochement des Canadiens avec les Européens. Stéphane Dion, interrogé par Arnaud Pontus.
C'est mieux que rien, c'est déjà ça, mais c'est quand même assez inédit, je crois, qu'un cessez-le-feu porte sur quelque chose d'aussi pointu, et quelque chose d'essentiel, mais un cessez-le-feu, d'habitude, c'est surtout, on cesse le feu.
Oui.
Et là, on va cesser de bombarder les infrastructures énergétiques. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ce que nous souhaitions.
Oui, c'est mieux que rien. Dans le même temps, la Russie exige la fin du réarmement de l'Ukraine et l'arrêt de l'aide occidentale. Est-ce que cette condition est acceptable?
Elle est inacceptable pour le G7, le Canada, pour la France. Tout le monde sait très bien qu'il faut appuyer l'Ukraine, qui est le pays qui est agressé. On n'est pas neutre dans cette affaire. Il y a un agresseur, le président Poutine, et il y a un pays qui se défend courageusement et qui, en se défendant, défend la démocratie.
Vous avez été surpris par l'attitude du président Trump vis-à-vis du président Zelensky et dans l'ensemble de cette affaire?
Bien, que le président Trump veuille la paix, on est avec lui. Mais pour négocier avec Poutine, il ne faut pas lâcher tout sans rien obtenir en échange.
Le président Trump a été faible vis-à-vis du président Poutine?
Il doit comprendre que pour négocier avec Poutine, il ne faut pas lui lâcher des choses sans contrepartie. Je pense que c'est très important pour la suite des choses.
Stéphane Dion, venons-en à cette visite du nouveau Premier ministre du Canada, Marc Carney. Il a réservé sa première visite à l'étranger à l'Europe, Paris et Londres. C'était au début de la semaine, lundi. Est-ce qu'il faut y voir un message de défiance vis-à-vis des États-Unis?
Un message que le Canada veut diversifier ses relations commerciales et renforcer ses relations économiques, géostratégiques avec l'Europe.
Le Canada ne va pas demander l'adhésion à l'Union européenne. Qu'on a vu un sondage, au Canada, vous l'avez vu comme moi, il vous fait sourire. Sondage qui indiquait que 44% des Canadiens étaient favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne.
C'est aussi une réaction à ce qui se passe avec le président Trump qui parle d'annexion du Canada, etc.
Oui, le Canada veut renforcer ses liens avec des alliés fiables, a dit le Premier ministre Marc Carney.
On veut des alliés qui respectent les traités.
Oui. Parler d'alliés fiables, ça veut dire en creux, les États-Unis ne sont plus un allié fiable ou plus un allié du tout.
Sur certains points, on a certainement des questions à se poser. Le président Trump, avait signé un accord de libre-commerce avec le Mexique et le Canada qui prévoyait qu'il n'y aurait pas de tarifs. Et là, il met des tarifs.
Des
barrières douanières. Nous, on veut un allié qui respecte les traités, comme la France, elle respecte les traités. C'est ce que nous voulons et nous demandons la même chose du président des États-Unis.
Mais est-ce que vous savez ce que les États-Unis demandent au Canada?
Il dit que le fait que nous ayons un surplus budgétaire prouve que les États-Unis subventionnent le Canada et que c'est injuste pour les États-Unis. Alors, ce qu'il faut demander au président Trump, c'est pensez-vous que les Américains achètent les produits canadiens pour nous faire plaisir ou parce que c'est rentable pour leur porte-monnaie?
C'est
ça qu'on essaie de faire comprendre au président Trump, parce que les deux économies sont tellement imbriquées ensemble. Oui. Vous savez que les États-Unis exportent plus au Canada qu'à la Chine, au Japon, au Royaume-Uni et à la France réunis. Alors, quand ils nous frappent, ils se frappent eux-mêmes, et ils pénalisent leurs consommateurs et leurs entreprises.
Et dans l'autre sens, monsieur l'ambassadeur, 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Est-ce que le Canada peut tenir le choc de cette guerre commerciale?
On va le faire. Nous, on est des joueurs de hockey. Face à nous, on jette les gants, ce qui est une expression de hockey, eh bien nous, on relève le gant. C'est une expression française.
Oui.
Donc, on ne souhaite pas cet affrontement. Mais au bout du compte, ce qui va se produire, je crois, c'est que les Américains eux-mêmes vont infléchir dans le bon sens les orientations de leur président.
Quand le nouveau Premier ministre du Canada, d'un mot, va-t-il parler à Donald Trump? Est-ce que c'est prévu?
Quand le président sera prêt, le Premier ministre veut bien lui parler, bien sûr. Mais vous savez, il faut le faire dans le respect mutuel. Nous, on parle du président des États-Unis, ils doivent parler du Premier ministre du Canada.
Il n'y a pas de respect mutuel.
Il fait une blague plate, comme on dit au Québec. Il n'arrête pas d'appeler notre Premier ministre « gouverneur », comme si on était le gouverneur d'un État américain. Il ne faut pas insulter ses homologues en diplomatie. On ne fait pas ça. Il respecte le président Poutine, qui n'est pourtant pas un ami très proche, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il pourrait respecter aussi le Premier ministre du Canada.
Stéphane Dion, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco, invité d'Arnaud Pontus sur RFI. Entretien complet à retrouver sur notre site internet et notre application Pure Radio. Il est 7h23 à Mexico. Des corridas sans violence. La capitale du Mexique vient de changer les règles. Il sera désormais interdit de blesser ou de tuer le taureau. Cette mesure a été approuvée hier par la quasi-totalité des législateurs du gouvernement de la ville. Elle devrait entrer en vigueur d'ici quelques mois. Depuis des années, la ville de Mexico tergiverse sur ce sujet. Les corridas avaient été interdites une première fois en 2022, puis la décision avait été révoquée par la Cour suprême un an plus tard. Cette fois-ci, il s'agit donc d'une sorte de compromis, mais qui ne plaît pas aux pro-corridas. Ils ont manifesté et bloqué le centre de la capitale. Reportage de Gwendolina Duval.
Encadrés par la police qui bloque la circulation, des dizaines de manifestants se sont assis au milieu d'une artère principale de Mexico. Les passionnés dénoncent un acharnement politique sur la corrida. Isabelle Carrera.
Soy taurina desde los 4 años.
Je suis fan de tauromachie depuis mes 4 ans. Ils vont à l'encontre des libertés individuelles de chaque personne en décrétant ce que l'on peut voir ou non. Les politiques devraient être beaucoup plus préoccupés par la violence du pays et ne pas s'opposer à une tradition pleine de valeurs.
Que está lleno de valores.
Selon les nouvelles règles, seul l'usage des capes, capotés et muletas sera autorisé. Les cornes du taureau seront couvertes, les épées et banderilles interdites. Blesser l'animal sera susceptible d'amende. Rodri Arriega soutient que ça n'a pas de sens. Le jeune toreo se dit extrêmement triste.
Ces taureaux de combat vont mourir dans des abattoirs anonymement. C'est lâche. Cette nouvelle idéologie de vouloir humaniser les animaux nous déshumanise totalement. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à la pêche sportive, à la chasse ou à l'équitation?
La corrida reste légale et pratiquée dans de nombreux autres États au Mexique. La capitale fait figure d'exception. En 2017, elle avait inscrit dans sa constitution la reconnaissance des animaux comme des êtres sensibles. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer avec vous, Tessa Groman. Deux radars et un scanner doivent donc arriver prochainement en Martinique.
Oui, pour lutter contre le trafic de cocaïne. Annonce de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, en visite dans l'île. Des équipements nécessaires pour dissuader les trafiquants d'utiliser la Martinique comme zone de rebond. Manuel Valls au micro de Pierre-Yves Honoré.
La Martinique, comme la Guadeloupe, est une porte d'entrée du trafic de cocaïne vers l'Europe. Donc il faut agir en mer, avec encore plus de puissance, dans le ciel, et il faut des moyens supplémentaires en termes d'avions, et puis évidemment sur terre. Il faut contrôler encore davantage grâce aux radars, grâce aux drones et aux scanners. Et après, il faudra une montée en puissance des moyens de surveillance air et maritime.
Manuel Valls qui quitte ce soir les Antilles après 6 jours de visite. On reste en Martinique, une île exposée au risque de séisme. C'est pourquoi les élèves du lycée Schœlcher à Fort-de-France ont participé hier à un exercice de simulation avec 3 comédiens et un scénario qui les plaçait en situation d'urgence. Reportage.
La terre tremble. Une simulation de séisme est lancée et il est demandé aux élèves et à l'assistance de réagir pour se protéger. Ce jeune lycéen a choisi un angle.
Il y avait des murs porteurs, je me suis dit que c'était solide. Et j'ai mis une chaise sur ma tête afin de me protéger des débris.
Plusieurs enjeux en sollicitant les personnes présentes ont été proposés. Cette lycéenne s'en réjouit.
J'ai beaucoup aimé parce que c'est important de sensibiliser les jeunes générations à propos des séismes. Je ne sais pas trop comment réagir.
La sensibilisation sur le séisme est une problématique très importante dans la vie du lycée. Didier Marmont, le proviseur.
C'est un sujet qui touche tout le monde et notamment les établissements scolaires. Imaginez qu'il y a un tremblement de terre, il faut qu'on soit prêt.
La simulation est un élément fondamental de la prévention.
Un reportage de Manuel Larade. Le dernier séisme d'ampleur en Martinique a eu lieu en 2007, une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Éric Coury, l'ex-PDG de la compagnie Air Antilles, sera fixé sur son sort le 20 mai prochain. Il comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, accusé d'avoir frauduleusement bénéficié des aides de chômage partiel pendant le Covid. Le procureur a requis 2 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En Guyane, le taux de mortalité des tortues vertes inquiète. La saison des pontes vient à peine de commencer et le nombre de cadavres retrouvés sur les plages est proche du bilan de l'ensemble de l'année 2024. Un phénomène que nous décrypte Amandine Bordin, coordinatrice au sein de l'association Réseau Échouage.
Il est expliqué par des captures accidentelles dans les filets de pêche, par des collisions. Donc il y a plus de 50% des mortalités là qui sont dues à des activités humaines. Il peut y avoir aussi des maladies et puis des morts naturelles, bien évidemment. On a recensé beaucoup de femelles sur les plages de Rémire et de Cayenne cette année. Donc ça peut aussi être lié à un effectif de femelles qui viennent pondre qui est plus important que les années d'avant. Et puis aussi dû à plus de signalements. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même inquiétant puisque les menaces sont très présentes en Guyane pour cette espèce-là.
Propos recueillis par Guyane la Première. Bonne journée.
Merci beaucoup Tessa Groman. Allez, il est presque 13h30 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI midi. On se quitte avec un peu de musique. James Germain, chanteur haïtien justement invité du festival Pap Jazz dont on parlait tout à l'heure à Port-au-Prince. Cafou Minoui sur RFI.
Rendez-vous chaque jour, chale soleil changé figui. Nan rendez-vous l'ennui, nan vente la vie cochon va cuit. Nan calfou mettre minuit, on est respect kabicha, kabicha mettre minuit. Toute ma petite cabane en fait noir, c'est le grand pan-pan de palais, c'est le volet grimpé fatal, c'est l'éclair et prend la peau. J'ai tout toi, c'est toi qui m'as perdu l'espoir.
James Germain. On se quitte donc pour ce RFI Midi. Yann Eligouin était à la réalisation, Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Dans un instant sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. Bonne journée. Nous bralé,